Bonjour à tous, merci de votre fidélité à France Bleu Isère. Mon invité aujourd'hui dans Portrait d'Isère, Jean Brouillat. Instituteur à Saint-Martin-d'Hères et à Grenoble, directeur d'école à Saint-Vincent-de-Mercuse, Jean Brouillat a aussi exercé son enseignement hors les murs. Convaincu de l'intérêt du spectacle vivant, il a été à l'initiative de nombreuses créations avec ses élèves, des comédies musicales, des pièces de théâtre, des films. Il est également auteur et il profite maintenant pleinement de sa retraite pour se consacrer à l'écriture. Il vient de publier son 7e roman et jusqu'à 14h, eh bien, il se raconte sur France Bleu Isère.
Les portraits de l'Isère, Michel Caron.
Jean Brouillat, bonjour.
Bonjour.
Alors, on va revenir sur votre passé d'enseignant et d'homme engagé au sein de nombreuses associations, de votre implication également au niveau de l'éducation. Vous avez même réussi à faire venir ce grand humaniste qu'est Albert Jacquard. Et là, on va d'abord s'intéresser à l'auteur. Vous venez de publier Mouna aux éditions Gap. Alors, Mouna, c'est le nom d'un village corse.
C'est le nom d'un village corse, effectivement, que j'ai découvert lors de vacances en Corse. Et que j'ai découvert un petit peu par hasard. C'est un village qui surgit à un moment donné après un virage. Et pour peu qu'on lève les yeux, on s'aperçoit de toutes ces maisons abandonnées. Donc toutes ces pierres qui roulent, qui coulent de la montagne. Et là, j'ai eu envie de traverser cette route, d'aller voir ce village à pied, bien entendu, puisque
on ne peut,
voilà, il est inaccessible en voiture. Je suis tombé sur une église, l'église qui venait d'être refaite, donc refaite à neuf extérieurement, en tout cas. Et sur le mur de l'église, une plaque en marbre, plaque commémorative, les combattants de la guerre de 14-18. Et là, mystère pour moi, deux noms de famille, Nivagioli et Rossi, et suivi de neuf prénoms. Ça m'a questionné. Et j'ai dit, c'est pas possible, il y a une explication à cela. Donc, ça m'a mis en appétit pour chercher. Et puis, en se promenant dans ces ruines, les vieilles pierres, pour peu qu'on se penche un petit peu, voilà, on est content de l'oreille, elle parle, elle révèle des choses, et il y a des voix qui ressortent, et notamment avec aussi une ancienne école, puisqu'il y a eu une école à Mouna qui a accueilli jusqu'à 50 élèves. Tous ces rires d'enfants, ces jeux dans la...
Voilà. Et donc, vous connaissez bien.
Voilà. Tout ça, ça remue un petit peu et ça fait penser à des tas de choses.
Oui, alors, en fait, vous avez découvert une page de l'histoire que nous sommes nombreux à ignorer, à savoir que des soldats corses ont été envoyés au front pendant la Première Guerre mondiale et c'est un hommage que vous vouliez leur rendre.
C'est un hommage, alors... Tout est relatif à mon niveau. Oui. Il faut rester là où on est, non pas où on voudrait être. Mais c'est vrai que je ne savais pas ça. Et ces Corses donc, ont été incorporés dans ce 173e régiment d'infanterie. Et après un passage à Bastia, etc., ils étaient donc, ils allaient sur le continent. Et là, ils étaient envoyés directement au front avec les Sénégalais. Et c'était en quelque sorte l'essentiel de la chair à canon de l'époque. Donc c'est vrai que bon, quand on découvre cela, on ne peut pas se taire. Et puis au fur et à mesure des recherches, j'ai appris aussi qu'ils étaient victimes de mesures vexatoires, de remarques pas toujours très correctes de la part, y compris des officiers français, donc l'armée française. Et donc j'ai voulu dénoncer un petit peu tout ça.
Voilà. Alors, dans votre livre, on retrouve la Corse, mais on retrouve aussi le département de l'Isère.
Oui. Ça m'a donné l'occasion de tisser, de lancer un pont entre la Corse que je découvrais, le département de l'Isère où...
Que vous connaissez bien, pour
un petit peu, un petit peu, bon, en y étant né et en ayant fait quelques petites choses, et puis un autre département qui est celui de la Drôme, qui est le département d'origine de ma famille, en somme. Donc j'ai voulu relier et lancer des ponts et tisser des liens entre ces trois lieux.
Voilà, donc c'est une, vous mêlez la grande histoire, comme on dit, à une petite histoire de famille, en fait, pour la retracer. Je précise aussi, Jean Brouillat, que votre livre est préfacé par Yves Dutheil. Vous avez contacté Yves Dutheil.
J'ai contacté Yves Dutheil. Je lui avais envoyé un manuscrit. Et il m'a répondu très très vite en me disant, je n'ai pas le temps matériel d'écrire une préface. Par contre, J'ai de disponible un texte qui s'appelle Le village endormi et qui en fait parle d'un village de la région de Porto Vecchio, et ce village c'est Pruna. Pruna Mouna, je veux dire, il y avait un clin d'œil très sympathique et un parallèle à faire. Donc, il m'a donné l'autorisation de publier ce texte en préface.
C'est une chanson, oui.
Une autre chanson d'ailleurs avec. Et là, j'ai appelé donc un chanteur corse qui s'appelle Antoine Chiosi et qui a chanté Mouna notamment. Donc, c'est une chanson corse aussi, Mouna.
Ah oui.
Oui, oui. Je ne savais pas comment faire, et j'ai trouvé sur l'annuaire ce nom de Chiosi. Donc je l'ai appelé, et je lui ai dit, t'es un petit peu gêné quand même. Il m'a dit, mais vous l'avez au téléphone. Donc on a pu discuter de cette chanson. C'est encore les hasards,
beaucoup de
l'histoire,
les rencontres. On va revenir sur ces hasards qui ont fait votre vie, Jean Brouillat. On rappelle aussi que vous avez grandi à Saint-Martin-d'Air, dans le quartier la Galochère. Votre père était ouvrier à Nerpic. Et vous puisez dans tout ça, dans votre vie, pour écrire pas mal de romans. Vous en êtes au 7e. Je pense aussi au Foulard Rouge, qui traite de la résistance. Un de vos oncles était résistant, d'ailleurs. Et il y a ce souvenir des chars américains dans votre livre.
Oui, alors c'est un souvenir qui est un peu vague, réel ou pas. Est-ce que c'est aussi le souvenir de ce qu'on m'a raconté? C'est pas impossible. Mais toujours est-il que je me revois tout petit devant ces monstres d'acier. Part de la réalité, la part de l'imaginaire, je sais pas. Mais on est toujours balancé entre le réel et l'imaginaire dans ce monde.
Et alors, le Saint-Martin-d'Air, vous viviez carrément, votre père était ouvrier à Nerpic, et vous viviez presque dans l'usine.
On vivait dans l'usine.
Vous viviez dans l'usine, ouais, oui.
Ouais, dans la conciergerie. Hein, ma mère était concierge de l'usine Nerpic.
Je comprends mieux.
Donc, était logée. et moi, l'usine, pour moi, ça a été un monde vraiment fantastique, fabuleux. Donc, je me promenais parmi les machines. L'usine était à moi quand les ouvriers étaient partis, les week-ends, les vacances. Enfin bon, donc voilà, j'étais le roi de l'usine à cette époque-là.
Mais alors, le roi de l'usine voulait devenir ingénieur.
Oui, probablement aussi imbibé de cet environnement. Et puis des personnages que j'ai certainement dû croiser à cette époque-là. Donc c'était une aspiration qui s'est révélée improbable et impossible par la suite. Mais enfin bon, c'était dans les rêves.
Alors pourquoi vous êtes devenu instituteur, Jean Brouillat ?
C'est un concours de circonstances, encore une fois. C'est toujours ce hasard qui poursuit. J'ai eu l'opportunité de suivre un stage à l'école normale d'instituteurs de Grenoble. J'étais donc en stage de remplaçant, hein, puisque c'était instituteur remplaçant à l'époque. Stage qui s'est très vite écourté d'ailleurs, puisque c'était en 1968.
Une grande année,
un grand cru. Donc le stage s'est plus souvent passé dans la rue ou ailleurs qu'à l'école normale.
Et donc à partir de là, bon alors c'était parti pour le métier d'enseignant que vous n'avez pas vraiment choisi.
Non. Je veux dire, bon, il s'est quelque part un peu imposé. Et puis, et après, il a fallu endosser ce costume, ce que j'ai fait.
Et vous y avez pris goût, hein, puisque vous n'avez
pas posé
votre costume qu'à la retraite, en fait.
Tout à fait. En le renouvelant de temps en temps. Mais oui, bien sûr. Puis même, je crois que je l'ai encore. On ne se défait jamais de ce costume.
Oui, vous évoquiez tout à l'heure une petite école au village de Mouna, et vous entendiez encore les rires d'enfants. Enfin, vous imaginiez. Donc, ces enfants dont vous êtes donc longtemps occupé. Et j'insistais sur le fait, Jean Brouillat, que vous pratiquiez beaucoup l'école hors les murs.
J'ai toujours pensé, et je pense encore, j'en suis convaincu, que ce métier ne peut se faire que si la porte de la classe est ouverte et si les fenêtres sont ouvertes. De façon à ce qu'on puisse voir l'extérieur, on puisse profiter du monde extérieur, mais en échange qu'on ait aussi le contraire. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'extérieur puisse venir à l'intérieur et qu'on puisse en profiter pour mener des projets, pour éduquer ses enfants, pour les instruire aussi.
Alors, vous êtes, j'allais dire, inscrit, puisque vous étiez sur le mot d'inscription dans un tas d'associations, dans un tas de projets aussi, et on revient justement sur les spectacles d'art vivant. Vous avez créé pas mal de spectacles. Je pense notamment en 1985 au Misérable, comédie musicale.
Oui. Donc pour le centenaire de la mort de Victor Hugo, où on avait repris la comédie musicale d'Alain Boulbil, Jean-Michel Schoenberg, enfin bon, et on l'avait adapté à la scène, donc pour les enfants des écoles de Saint-Martin-d'Air. Voilà, c'était des enfants de cours moyen 2, mais en l'imbriquant dans la classe, c'est-à-dire qu'on avait acheté les ouvrages adaptés aux enfants, bien sûr, donc des extraits des Misérables, qu'on avait donc donné aux classes pour que les enfants puissent travailler là-dessus et faire des recherches. Et après, on avait donc c'est un camarade à moi, parce que on est dans tous ces projets, on n'est jamais seul. Et tout seul, on ne peut rien faire. Hein, sans les autres, on ne peut rien faire. Donc, Les Misérables, ça a été un grand virage, on va dire. Et puis après, il y en a d'autres qui ont suivi.
Alors, un autre grand virage, comme vous dites, un autre grand projet que vous avez réalisé qui était complètement impensable, c'était de créer un spectacle qui s'intitule La Révolution en chantant, avec des élèves qui allaient de la maternelle à l'université.
Oui, c'était à l'occasion du bicentenaire de la Révolution. Et là, l'idée n'était pas de moi, donc je dois aussi rendre hommage. Voilà. J'ai une pensée particulière à ce par rapport à ce camarade qui aujourd'hui n'est plus avec nous, mais il avait imaginé donc cette chorale avec en finale la Marseillaise de Berlioz. Et il avait donc, de par ses connaissances, impliqué l'orchestre universitaire, et donc qui était sous la direction de Patrick Souillot à l'époque, qui était tout jeune.
Qui a occupé votre place il y a quelques temps.
Voilà. Donc ça aussi, ça m'a.
Il
n'y croyait pas, ni lui, ni le chef de chœur. Mettre des enfants de maternelle, donc 5-6 ans, avec des universitaires, pour eux c'était impensable, c'était une folie. Mais bon, on lui a démontré que la vie sans la folie ou sans l'utopie, c'était pas la vie.
Voilà, puis on va voir que vous avez commis d'autres folies. Vous restez avec nous, Jean Bruyat, sur France Bleu Isère. Portrait d'hiver, mon invité aujourd'hui, Jean Bruyat. Jean Bruyat écrit, on rappelle que vous venez de publier Mona, un livre publié aux éditions Gap. Et puis, vous avez surtout été longuement instituteur à Grenoble et à Saint-Martin-d'Air. Et vous avez eu aussi une période à Saint-Vincent-de-Mercuz, où vous avez été directeur de l'école de 1990 à 1999. Vous en souvenez ?
Beaucoup, beaucoup, parce que chaque fois que je passe dans ce petit village, soit à proximité, soit pour le traverser, je ne manque pas de faire un petit crochet par Montalieu.
Oui, alors Montalieu, ça fait justement l'objet d'un film, parce qu'on parlait de théâtre, de comédie musicale que vous aviez créé avec des élèves, puisque vous pratiquiez beaucoup l'art du spectacle vivant avec vos élèves pour les sortir de l'école, justement, peut-être pour mieux les y faire rentrer à nouveau. Et donc là, vous aviez fait un film. Alors c'était assez particulier, c'était sur Montalieu, et c'était à partir de l'écrit d'un vieux monsieur, Roger Grand. Racontez-nous.
Oui, alors bon, ce film, c'est aussi le résultat du travail d'une équipe, d'une équipe dans laquelle on retrouvait donc des collègues enseignants, hein, notamment un, et puis des parents d'élèves. Donc on s'était un peu distribué les rôles, l'un des parents d'élèves filmait, une autre faisait le montage avec le collègue justement instit. Et c'était le tournage donc sur 2 années avec les enfants, avec les villageois. Donc on organisait de temps en temps avec les villageois, donc dans la vraie vie, des scènes. Donc on filmait en costume d'époque, en essayant de retrouver, de coller le plus possible à la réalité de l'époque, donc d'après les souvenirs de cet ancien, de Roger Grand.
Oui, et il avait été très ému de voir ce film, ou son livre porté à l'écran, si
oui.
On peut dire.
Oui, parce que en fait, tout avait démarré à un moment donné. On avait décidé de projeter le film Le Vieil Homme et l'Enfant, qui avait été tourné donc sur les lieux de l'école.
Donc le film de Claude Berry,
avec Michel Simon, parce que j'avais eu la chance aussi d'avoir la visite d'Alain Cohen, un beau jour,
qui jouait le rôle de l'enfant.
Donc toutes ces choses-là se sont ajoutées les unes aux autres. Et l'idée donc de ce film est née peu à peu, mais elle est née surtout à partir du moment où Roger Grand m'a appelé un jour en me disant « Monsieur Bruyat, si vous voulez vous passer à la maison, j'aurai quelque chose à vous montrer ». Donc j'ai dit « Bah oui ». Et en fait, ce qu'il voulait me montrer, c'était un cahier d'écolier avec son écriture. Et il avait raconté dans ce cahier ses souvenirs d'enfant, donc d'école, de Montalieu, sur la période 39-45. Et là, je lui ai dit, mais bon, Monsieur Grand, qu'est-ce que vous voulez faire de ce cahier? Il me dit, pour mes enfants, mes petits-enfants, enfin bref, il n'avait pas d'idée très précise. Et là, je lui ai dit, écoutez, si vous le permettez, moi, je vois autre chose, je vois d'autres prolongements, donc je vous fais confiance, allez-y.
Voilà, et ça donnait ce très beau film pour lequel d'ailleurs vous avez eu le montreur d'ours du film de Jean-Jacques Annaud.
Oui, Noël, donc qui était venu depuis la région de Nantes avec ses deux ours dans son camion.
Impressionnant.
Très très impressionnant, d'autant que il avait, dont je revois encore les enfants autour là et dans la scène du film, qui caressait l'ours. Donc c'est aussi quelques moments de stress quand même.
Vous restez avec nous, Jean Bruyat. On revient aussi sur l'éducation dont vous êtes préoccupé tout au long de votre vie. Ça n'est pas terminé. Vous êtes avec nous sur France Bleu Isère. Et on parle d'éducation avec mon invité Jean Bruyat, instituteur tout au long de sa carrière. Alors, soucieux d'éducation toujours, Jean Bruyat, à l'époque, vous aviez organisé une biennale de l'éducation et vous aviez réussi à faire venir Albert Jacquard, ce qui n'a pas été sans mal d'ailleurs.
Oui, c'était un
grand humaniste.
Très grand humaniste et un grand bonhomme tout simplement et tout simple. C'est surtout ça qui est extraordinaire chez ces gens-là, que ce soit Jacquard, que ce soit Edgar Morin aussi que j'avais rencontré, c'est la simplicité, c'est l'abord tout à fait normal. Et Albert Jacquard, donc c'était en 2005, on avait constitué avec d'autres camarades un groupement qu'on avait appelé les groupements mutualistes de l'Isère, avec donc d'autres associations. Et l'idée, ça avait été de créer un événement sur l'Académie de Grenoble, sur l'éducation. Donc on s'était donné des thèmes, et puis était venu à un moment donné le nom d'Albert Jacquard. Et j'avais eu en charge de contacter Albert Jacquard. Ce que j'ai fait de nombreuses fois, mais je me heurtais toujours à un téléphone qui ne répondait pas. Jusqu'au jour où ce téléphone sonne occupé. J'ai dit, cette fois... C'est bon.
Je ne le lâche pas.
Et la touche bis a fonctionné un certain nombre de fois. Et j'ai enfin eu Albert Jacquard. Donc, je lui ai expliqué ce qu'on faisait, ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait lui demander. Et il a accepté. Il a accepté. Donc, on avait tout préparé, les courriers, la publicité, enfin bon, les affiches, tout ça. Et à peu près une quinzaine de jours avant, donc, la date fatidique, il me rappelle en me disant, écoutez, j'ai trop d'engagement, je vais pas y arriver, donc, vous imaginez un peu la catastrophe. D'ailleurs, il me dit d'ailleurs lui-même, à moins que ce soit une catastrophe. Et là, j'ai sauté sur l'occasion, je dis, mais monsieur Jacquard, c'est une catastrophe, donc, on a tout préparé, tout envoyé, c'est parti, etc. Donc, il m'a dit, je vais m'arranger, je viens.
Ouf.
Gros stress.
Voilà, il y avait du monde.
On était dans l'amphithéâtre de l'IUFM, et il y avait des gens qui étaient assis sur les gradins, et puis sur les escaliers, donc c'était bondé. Bondé pour écouter Albert Jacquard sur son intervention, et c'est vrai que je pense que c'est un des grands personnages, avec Stéphane Hessel qui a disparu depuis, ou Edgar Morin, c'est encore quelques sages qui nous restent.
Alors, on apprenait les résultats, le palmarès des lycées, et notamment en Isère, on a vu que c'était les premières places étaient occupées par l'enseignement privé. Vous en pensez quoi, Jean Bruyat, vous qui avez été dans l'école de la République pendant de longues années?
L'école de la République, c'est tout un programme. Et je me souviens de la réaction et de la réflexion de Monsieur Grand dont on parlait tout à l'heure et qui savait reconnaître tout ce qu'il devait à cette école de la République, qui lui avait permis de grandir, d'évoluer et d'être modestement ce qu'il était.
Merci beaucoup Jean Bruyat d'avoir passé cette demi-heure avec nous. Rappelle le titre de votre livre, c'est Mona, publié aux éditions Gap.